Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, dans ce troisième message, je l'intitule « Le traitement de point la parole ». Et on a fait un diagnostic, et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un traitement et vous proposer un traitement ou une thérapie, si on peut dire, et ce n'est plus ni moins que la parole de Dieu. Le traitement pour notre cœur, c'est la parole de Dieu. Alors oui, on a déjà abordé le sujet de la parole, vous allez dire, dans le premier message, et je vous ai dit que c'est ce qu'il faut qu'on mette dans nos cœurs, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne veux pas tellement insister sur le fait de mettre la parole en nous et de la croire et la confesser, même si on est d'accord que c'est absolument indispensable. Mais vous savez, j'ai constaté aussi que certaines personnes avaient reçu une certaine mesure d'enseignement qui est juste, qui est excellente. Mais alors, ils s'étaient mis à prendre la parole de Dieu sur un sujet ou sur une situation ou quoi que ce soit, et à la confesser. Et ils pensaient bien faire, mais le problème, c'est que des jours, des semaines, des mois, parfois des années sont passées, et sans qu'il n'y ait de résultat. Et il est arrivé donc que ces personnes aient fini par se dire « Mais tout ça, c'est des belles théories, c'est des belles choses, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. J'ai cru dans mon cœur, j'ai confessé la parole de Dieu, mais il ne s'est rien passé. » Et aujourd'hui, la dimension, je dirais, que je voudrais introduire et qui est absolument nécessaire avant d'aller plus loin, c'est pas tellement la notion de croire et confesser, même si, encore une fois, c'est totalement valable et nécessaire, mais je voudrais mettre un accent sur le fait de pratiquer ou d'appliquer la parole de Dieu. Vous savez, on va déjà reprendre la lecture et puis on va poursuivre tranquillement. Alors, Proverbe 4, donc le verset 23, nous l'avons abordé et nous le reprendrons régulièrement. C'est le verset clé, j'allais dire, de cette série. Mais je voudrais juste remonter un petit peu. On va prendre à partir du verset 20. Et on va voir les conseils de sagesse qui sont donnés là par un père à ses fils. Proverbe 4, verset 20. Et évidemment, on peut aisément comprendre qu'à travers ces conseils d'un père à son fils, eh bien, c'est notre père aussi qui donne des conseils à ses fils et filles que nous sommes. Et il est dit ici, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et donc, dans ce passage, il nous est dit clairement, « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. » Donc ici, on voit, et juste après un autre verset, « Garde ton cœur plus de tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Eh bien, ici, il nous est dit que les paroles de Dieu sont la santé pour tout notre corps. Donc la parole de Dieu elle-même, si on peut se permettre, va agir comme le remède, comme le médicament efficace pour nous donner la vie, pour nous communiquer la santé. Et la bonne nouvelle avec ce médicament, c'est qu'on ne risque pas de surdosage. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, ça ne vous fera pas de mal. Et ce médicament, il agit. Et je vais juste citer rapidement différentes écritures pour ne pas passer trop de temps, mais peut-être qu'on arrivera à les suivre en direct. Le psaume 107 au verset 20. Psaume 107, verset 20. Il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit ». Psaume 107, 20. Je vais aller très vite. Hein. Ésaïe 55, 11 nous dit que... Bon, ça, je vais quand même le prendre précisément. Ésaïe 55, 11 nous parle de la parole et de ses effets. Il est écrit « La parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc ici, on voit la parole de Dieu a de l'efficacité. Elle ne revient pas à lui sans avoir fait de l'effet, sans avoir accompli ses desseins. Donc c'est un médicament qui est efficace, qui fonctionne. Ce n'est pas comme certaines choses que certaines personnes prennent et puis ça ne produit rien. Sa parole vient et elle accomplit son effet. Psaume 107, il envoie la parole, elle guérit. Ici, une parole qui ne revient pas sans effet. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui va jusqu'à séparer. Il est parlé aussi de l'âme par rapport à l'esprit. En tout cas, la parole, donc, elle est vivante et elle est efficace. Et 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, 16, Il nous a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice » et au verset suivant « Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc là encore, il dit que toute écriture est inspirée et utile ou bien efficace. Et il est dit qu'elle est efficace pour corriger et instruire. C'est corriger, eh bien, par moment, et je pense pouvoir dire, en tout cas je le dis humblement dans mon cas, et nous devons tous pouvoir le dire, je pense, que sur certaines choses, nous avons besoin que la parole vienne nous corriger, vienne nous réajuster. Et au sujet de notre être intérieur, nous avons besoin de certaines corrections. Certaines corrections par rapport à nos propres conceptions, mais certaines corrections par rapport à des choses que nous avons vues, entendues, vécues, et qui ne sont pas justes. Et alors la parole de Dieu va venir nous corriger, nous réajuster. Ce n'est pas juste qu'elle nous corrige, elle est comme un bâton pour venir nous frapper, mais elle vient corriger en disant « Non, ça c'est faux là, on efface ça et on met la vérité à la place. » La parole est utile et efficace. Donc c'est comme un médicament. Et alors je me permettrai de faire juste deux, trois parallèles. Comme un médicament, si vous voulez qu'il fasse quelque chose, pour qu'il soit efficace le médicament, il faut le prendre. D'accord ? Si on vous prescrit quelque chose pour une raison quelconque et que vous laissez le médicament dans une armoire, il ne vous servira à rien. Donc pour être efficace, il faut le prendre. Donc pour que la parole de Dieu soit efficace dans notre vie, nous avons besoin de la prendre, de l'absorber, de nous en remplir, nous en avons parlé. Mais plus encore, j'aimerais parler de suivre la prescription, comme on suivrait une ordonnance. Vous savez, si un médecin donne à un malade une ordonnance, ou peut-être que ce soit pour une maladie, ou que ce soit même pour un rétablissement physique ou autre, il y a une ordonnance, il y a des prescriptions. Si la personne ne fait pas ce qui a été prescrit, eh bien, elle ne doit pas pouvoir s'attendre au résultat escompté. Si on prescrit de faire trois fois par jour un certain exercice et qu'on ne le fait pas, l'amélioration ne viendra pas. Et quelqu'un qui, pour une raison quelconque, a perdu l'usage total ou même partiel de ses membres et du coup ne peut plus marcher correctement, par exemple, on va souvent prescrire des rééducations. Et on va dire, voilà, il faut des séances de kiné, peut-être tant d'heures ou tant de jours par semaine. Il faudra aussi faire de l'exercice de telle manière pendant tant de temps. Et si la personne suit la prescription, elle va faire du progrès. Mais si elle ne le fait pas, eh bien elle va se retrouver coincée, limitée dans sa situation. Et de la même façon, nous avons besoin d'apprendre et de suivre les prescriptions et l'ordonnance de la parole de Dieu. Donc non seulement, comprenez la nuance, non seulement nous devons lire, méditer, réfléchir, accepter la parole et puis la déclarer, mais nous devons aussi l'appliquer, pratiquer, respecter l'ordonnance. Vous savez, parfois nous prenons et nous voyons, oui Seigneur, tu as ordonné, et nous avions d'ailleurs partagé à ce sujet il y a maintenant quelques temps, et quelle joie de voir des signaux de ce que Dieu fait dans nos vies, mais tu dis dans ta parole que si j'obéis, eh bien tu as ordonné la bénédiction d'être avec moi, donc je crois, je confesse, la bénédiction est avec moi. Mais si pendant que nous faisons cela, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire, il ne se passera rien. Il ne faut pas oublier un morceau. C'est pas juste, oui, la bénédiction sera avec moi. C'est pas juste, oui, je suis béni dans tout ce que je fais. C'est pas juste, oui, Dieu pourvoit tous mes besoins. C'est, il le fait. Mais est-ce que moi, je fais la part que je dois faire? Est-ce que j'applique l'ordonnance? Est-ce que je fais ce que Dieu me dit? Vous savez, il y a plusieurs domaines comme ça et qui, du coup, sont devenus des domaines problématiques, voire épineux. Certains les qualifient comme ça dans le corps de Christ, qui ne devraient pas l'être, parce que on s'est attendu à certains résultats, on a voulu accomplir certaines choses, mais sans respecter l'ordonnance. On a voulu courir, mais on n'a pas respecté. On pourrait prendre un autre parallèle, c'est simplement, et moi j'ai du mal avec ça, mais c'est de suivre le mode d'emploi. Vous savez, quand j'achète quelque chose, l'une des choses qui m'intéresse le moins, c'est de lire le mode d'emploi. Et vous constaterez que souvent, quand vous déballez un appareil neuf, ils mettent au-dessus une grande feuille avec un gros « attention rouge » en disant « à lire impérativement avant d'utiliser le matériel ». Et moi, tout ça, je mets ça à côté, ça ne m'intéresse pas et j'essaye de brancher comme je peux. Alors, quelquefois, ça va, heureusement, mais d'autres fois, ça ne va pas. Et je me gratte, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a un problème dans ça, etc. Et puis, finalement, on est obligé, tôt ou tard, de revenir au mode d'emploi et pour se rendre compte qu'il y a peut-être juste une toute petite chose qui nous a échappé et qu'on ne pouvait pas savoir parce qu'on ne sait pas tout aussi bien que le constructeur. Et de la même manière, quelquefois dans nos vies, nous voulons accomplir des choses parce que Dieu nous a dit « je veux que tu réussisses ». Ou Dieu nous dit « oui, je veux pour toi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc j'ai prévu pour toi une femme, ou pour une femme, j'ai prévu pour toi un mari, ou peut-être quoi que ce soit, et on veut le faire, ou on se dit « je voudrais des meilleures conditions de vie, je voudrais une maison, je voudrais peut-être une autre voiture, ou quoi que ce soit ». Alors on essaie de le faire et de l'obtenir, et puis on dit « mais il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne prend pas, pourtant je crois, je confesse, je prie, je pense faire ce qu'il faut faire ». Mais la question n'est pas si tu penses faire ce qu'il faut faire, c'est est-ce que tu fais ce qu'il a dit de faire ? Est-ce que tu respectes l'ordonnance ? Est-ce que tu suis les prescriptions ? Et l'une des leçons que j'ai apprises en quelques années de marche avec Dieu, c'est que Dieu sait les choses mieux que moi. Il me connaît mieux que moi-même. Et quelquefois, je me dis, si je fais ça, ça va marcher. Et de la même façon que quand je déballe peut-être un appareil neuf, je me dis, ben, je vais le brancher, comme ça va marcher. Mais je ne sais pas tout ce que le constructeur a prévu. Et peut-être que le constructeur a prévu un bouton qu'il fallait activer par sécurité avant d'allumer le matériel, et ça, je ne le savais pas. Et donc, il ne se passe rien. Et de la même façon, je ne sais pas tout ce que Dieu a prévu pour moi, d'une part, et d'autre part, je ne connais pas toutes les circonstances qui entourent ma situation. Quelquefois, je peux dire, ça serait super que j'ai telle chose, je veux l'avoir, je me mets dans la foi, je demande, je confesse. Et vous savez, je vous avoue humblement que ça m'est arrivé. Après, je dis, waouh, Seigneur, heureusement que tu ne m'as pas donné ça. Parce que sur le coup, on voit ça, on dit, c'est bien, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est excellent, ça me plaît, je le veux. Et je dis, bon Seigneur, tu as dit, demande-moi et je te donnerai. Tu as même dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Alors, ce n'est pas ce que je te demande là que tu ne pourras pas me donner. Donc, je le demande, je le reçois, au nom de Jésus, c'est à moi, j'en prends possession et tout. Et puis, arrivé quelques jours ou quelques semaines plus tard, on découvre un élément qu'on n'avait pas avant. On se dit, oula, non, j'en veux pas de ce truc-là. On dit, Seigneur, pardon, je retire mes paroles. Mais... Et quelquefois, on agit comme ça de façon un peu inconsidérée, mais si nous appliquons la parole de Dieu, et si nous sommes attentifs à sa voix, et que nous pratiquons ce qu'il nous dit, que nous appliquons l'ordonnance, nous avons la certitude d'être en paix, d'être en sécurité, et de réaliser des choses, et d'aller de l'avant sans mauvaise surprise, sans, j'allais dire, de cadeaux empoisonnés. Et donc ici, on va poursuivre la lecture dans Proverbe 4, de nouveau, et on va voir qu'il y a des instructions aussi qui accompagnent cette déclaration. Proverbe 4, donc on vient de le lire, « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour leur corps. » Verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté. » Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux, verset 25, regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Donc ici, déjà, on rentre dans des choses plus concrètes. Jusqu'à là, on se dit, ok, je dois écouter les conseils, pas de problème. Je dois garder mon cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Ok, on peut le faire. Mais maintenant, on rentre dans du concret. Éloigne de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Et en fait, on peut évidemment y voir que nous ne devons pas mentir ou proférer de faux témoignages, et c'est totalement vrai. Mais ce qu'on voit aussi ici, une fois encore, c'est éloigne de ta bouche. Ne parle pas, ne dis pas des choses fausses. Ne prends pas des détours. Et ce qu'on peut y voir, c'est finalement si nous gardons notre cœur plus que tout et que nous permettons à Dieu d'y mettre un regard, une vision juste de ce qu'il veut pour nous, eh bien ensuite nous allons aussi parler uniquement ce qui est vrai. Éloigne de ta bouche la fausseté. Donc nous n'allons plus dire des choses qui ne sont pas exactement ce que Dieu nous dit. Nous n'allons plus déclarer, confesser ou même prendre part à certaines discussions. Et vous savez, parfois c'est subtil, mais on peut dire « ouais, je ne sais pas trop comment ça va marcher, on ne sait jamais, etc. » Alors que Dieu t'a dit « ça va fonctionner ». Arsène nous disait, il y a plus de 3 ans, Dieu lui a dit, tu es sur la liste des personnes qui ont obtenu leur doctorat. Et en cours de route, si nous avons une assurance comme celle-là, et qu'on se retrouve à dire, ah, je ne sais pas trop si je vais réussir ou pas, eh bien, quelque part, il y a de la fausseté dans notre bouche. Parce qu'on n'est pas totalement en phase avec ce que Dieu nous a dit. Mais ici, il nous a dit, éloigne de ta bouche la fausseté et évite, hein, éloigne de tes lèvres les détours. Tu ne vas pas tourner autour du pont en face à côté. Ou parfois, quand il est question même de témoigner, en disant, mais finalement, comment vous faites ? Et encore dernièrement, quelqu'un me disait, mais attendez, parce que vous avez une activité qui a l'air quand même assez prenante, donc vous avez vos activités extra-professionnelles, comme je disais, et puis vous faites encore telle et telle chose, et vous avez une famille avec des enfants, mais comment vous faites ? C'est pas possible, quelqu'un ne peut pas réussir dans ces conditions-là. Et cette personne est d'ailleurs assez dure, entre guillemets, enfin très arrêtée dans ses réflexions, bon après ça lui appartient. Et la personne disait, à moins que vous n'ayez un secret. Et là, pendant quelques instants, dans nos pensées, on peut être tenté de faire des détours en se disant, bah, peut-être que je m'organise mieux que quelqu'un d'autre, ou non, je ne sais pas trop comment ça se fait, c'est comme ça. Ou alors, on peut être dans la vérité précise et dire, oui, je sais pourquoi. C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et comme Arsène a pu le faire encore, excuse-moi, je profite de ton exemple aujourd'hui, mais de dire, bah oui, c'est passé 3 ans, et malgré certaines paroles de Dieu, tout ça, aujourd'hui, docteur Arsène, mais il reconnaît, docteur, mais c'est pas juste moi, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je cite à peu près en disant, et je peux pas rester sans dire que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une des excellentes façons, eh bien, d'éviter les détours. On ne tourne pas autour du pot de l'an, mais j'ai bien travaillé. Certes, on a notre part. Oui, on a fait un travail, mais on va droit au but. On va avoir un langage qui est juste, qui est droit, qui est aligné sur ce qui est vrai. Et ce qui est vrai nous vient de la parole de Dieu. Verset 25, que tes yeux regardent en face, j'aime ça, et que tes paupières se dirigent devant toi. Et ici, on peut y voir, je résume un peu, mais une exhortation encore du Seigneur à dire « regardez droit devant ». Que tes yeux regardent en face et que tes paupières ne se détournent pas. On ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche, on regarde droit devant. On regarde le but à accomplir. On regarde le but, le plan que Dieu a fixé pour nous et on fixe droit devant. Et la bonne nouvelle aussi, et moi ma raison de regarder droit devant, ce n'est pas juste de regarder devant moi et puis d'ignorer tout le monde ou tout le reste, mais c'est de regarder devant parce que je sais derrière qui je marche. Et quand je regarde devant, je regarde à quelqu'un, je regarde à Jésus. Et je garde les yeux fixés sur Jésus. Et je garde les yeux fixés sur sa parole. Et je le suis là où il va. L'Écriture nous dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et plus loin, il dit encore, il restaure mon âme. Et ça fait partie des choses dont nous avons besoin. Et ça fait partie des objectifs de cette série. Donc aujourd'hui, on est encore un peu dans l'introductif, mais les prochaines fois, on va rentrer vraiment très très concrètement dans des sujets précis. Mais et il veut restaurer notre âme. Mais pour cela, nous avons besoin qu'il soit notre berger. Et le berger, il va devant, il montre la direction. Et nous le suivons. Donc regardez droit devant. Ne regardez pas ce qui se passe autour. Peut-être que la conjoncture ou les circonstances font que certaines choses ne devraient pas être telles que vous les attendez. Mais celui qui vous a parlé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc gardez les yeux sur lui, regardez devant vous. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Vous savez, pendant que certaines personnes qui sont en train de dire du mal ou d'être dans le doute ou de vous proférer toutes sortes de réflexions qui ne sont pas approuvées, j'allais dire, de Dieu, eh bien pendant que ces gens-là sont en train de tourner en rond pardonnez-moi, mais dans leur boue par moment, eh bien vous, si vous gardez les yeux, que vous regardez droit devant, vous êtes en train d'avancer. Mais si vous vous arrêtez à chaque fois pour écouter et puis pour vous laisser éclabousser par ces choses-là, eh bien c'est autant de temps pendant lequel vous ne progressez pas et vous n'accomplissez pas ce que vous devriez accomplir ou ce que Dieu voudrait accomplir en vous, à travers vous et pour vous. Donc, garde les yeux droit devant. Ne laisse pas tes paupières se détourner à gauche ou à droite. Il est notre berger, nous le suivons. Et verset 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Donc voilà quelques prescriptions qui accompagnent en disant garde ton cœur plus que tout et voilà certaines des manières de le faire. Voilà des choses à appliquer. Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous... Oui, nous associons foi à la parole et nous la confessons et nous nous attendons à la réponse de Dieu, mais en même temps, est-ce que nous appliquons, est-ce que nous respectons la prescription? Et ça, c'est au moins aussi important que la parole en elle-même. Je reste dans ce parallèle du médicament, parce que c'est parce que ça nous dit, si vous prenez la parole, ça vous donne la santé. Et un médicament est accompagné d'une prescription. Il y a une façon de le prendre, il y a une posologie, il y a un rythme auquel il faut le prendre, etc. Et si on ne suit pas, les prescriptions sont au moins aussi importante que le médicament lui-même, puisque s'il y a un principe actif qui doit être appliqué de certaines façons. Une recette aussi peut être accompagnée d'un ordre dans lequel le faire. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que certains des mélanges qui sont faits, il y a certains ingrédients qu'il ne faut pas mettre dès le début, sinon c'est quasiment impossible d'obtenir le mélange tel qu'il doit être à la fin. Et si vous ne suivez pas dans l'ordre les prescriptions, vous n'aurez pas le résultat escompté. Et dans tellement d'autres domaines, on s'y retrouve. Mais ici même, il nous est montré, considère le chemin par où tu passes, que tes voies soient bien réglées. Et encore une fois, ça nous ramène à la parole de Dieu. Parce que le psaume 119 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu, c'est le traitement par excellence dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de ce traitement, mais aussi de suivre la prescription. C'est pas juste, évidemment c'est absolument important, mais il ne suffit pas, et ça parfois était l'erreur de plusieurs, de juste lire, même méditer et même déclarer la parole de Dieu. Il nous faut aussi suivre la prescription qui va avec, c'est-à-dire faire ce qu'elle nous dit. Pas juste l'apprendre et la réciter, c'est pas juste un outil, c'est pas juste quelque chose qu'on va utiliser comme ça, mais faites ce qu'elle vous dit, faites ce que Dieu vous dit. Je vous garantis que si nous avons la parole de Dieu, et que nous suivons la prescription, elle va nous dispenser la vie. Et l'Écriture dit ici que c'est la vie pour tout notre corps. Et j'ai envie de dire pour notre être entier, esprit, âme et corps. Jésus lui-même disait dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, ou vous affranchira. » Et il dit de cela juste après avoir dit, « gardez ma parole, demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et elle vous rendra libre. » Et nous avons besoin dans certains domaines d'être libérés. Libérés de la peur, libérés du rejet, libérés de certaines blessures, libérés des influences que nous avons pu subir ou qui ont pu prendre place dans nos vies. Et tout cela, ça fait partie de l'état de notre cœur finalement. Et la parole de Dieu est celle qui va nous dispenser la santé, la liberté, la délivrance. Et comme un médicament, on a besoin d'être régulier jusqu'au résultat. Donc, ce n'est pas juste prendre la parole une fois, et puis après, on laisse tomber, on se relâche, mais on va être régulier. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et alors, tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Le psaume 1 aussi nous dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On peut résumer encore en disant dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Donc, il y a une notion de continuité. Ce n'est pas juste une fois comme ça. C'est quelque chose, nous avons besoin d'être alimentés et de nous alimenter en permanence. Et Jérémie 23, verset 29, souligne une vérité qui est parlante aussi, où il est dit, la parole de Dieu est comme un feu, donc il va pouvoir consumer ce qui ne convient pas, et comme un marteau qui brise le roc. Et j'aime cette image du marteau qui brise un roc. Parce que vous pouvez prendre un marteau, et je n'ai pas les outils là pour faire une démonstration, mais je pense qu'on peut l'imaginer facilement. Un marteau qui brise un roc. Et imaginez que nous avions ici un roc ou une grosse pierre et que je prenne un marteau. Je vais taper une fois. Il va peut-être se passer quelque chose tout de suite, peut-être pas. Il va peut-être s'arracher quelques petits bouts de pierre, c'est un début, mais le roc est toujours là. Et puis je vais reprendre encore le marteau, je vais encore taper, et encore taper, et ça va commencer à se fissurer, et je vais taper encore, et je vais taper encore et encore, jusqu'à ce que ça éclate complètement et que le roc soit brisé. Et Dieu lui-même dit de sa parole qu'elle est comme un marteau. Il n'a pas dit ma parole est comme, je ne sais même pas que ça peut prendre, même si par ailleurs, évidemment, il nous parle de puissance de la parole de Dieu et tout, mais Dieu utilise ces mots à propos. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le dis, Dieu utilise ces mots à propos. Et il n'y a pas de hasard, j'allais dire, dans le choix des termes. Et Dieu nous montre toujours certaines vérités. Et un marteau, ça peut être utile et efficace, mais un marteau, pour briser un roc, il est évident qu'il faut y aller à plusieurs fois. Et Dieu nous dit, ma parole est comme un marteau. Donc ce n'est pas qu'elle n'est pas efficace, mais c'est que quelquefois Dieu attend que nous prenions sa parole, mais que nous y allions, et comme avec un marteau, que nous mettions un coup, et peut-être un autre, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à ce que le roc soit brisé. Donc elle est utile, elle est efficace, mais nous avons besoin de régularité. Nous avons besoin de demeurer, de nous y attacher, de continuer de taper encore, 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 encore. Et si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais là, ça sert à rien, il y a des miettes, tu vas dire, c'est pas grave, la parole de Dieu, c'est comme un marteau, et maintenant c'est des miettes, et regarde les fissures qui commencent à se faire, et je sais qu'au prochain coup là, ça va éclater. Mais là encore, notre responsabilité est engagée. Est-ce que je prends juste la parole et puis j'essaye, puis ça donne rien? Eh bien, même tout ce que nous allons étudier, et c'est pour ça que je prends le temps, et que le Saint-Esprit nous conduit à prendre le temps, ça fait déjà 3 messages où il pose quelques fondements, mais que nous soyons prêts, que nous soyons dans les bonnes dispositions pour que quand la parole va venir, parce que finalement la série que nous allons aborder et les sujets que nous allons aborder concernant notre cœur, la réponse c'est la parole de Dieu. Mais moi je ne veux pas, et j'allais dire je ne tolérerai pas, ça paraît grave, mais je l'assume, que juste ce soit des messages et des sujets qu'on ait traités comme ça. Je veux, je crois et je déclare que les messages et la parole de Dieu qui sera libérée produira son effet et qu'elle portera du fruit. Mais pour cela, nous avons besoin de nous disposer et d'être déterminés et de dire oui, je vais accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, oui, je vais croire à la parole, je vais la confesser, je vais l'appliquer, je vais respecter l'ordonnance, et la parole est comme un marteau, donc je vais mettre encore des coups, et autant de coups qu'il ne faut, jusqu'à temps que ce que Dieu m'a dit se réalise, et que ça s'accomplisse, et que ça s'accomplisse totalement. On ne va pas s'arrêter en chemin. Donc ça doit être régulier, d'aller jusqu'au résultat. Et maintenant, parce que je n'aime pas les images limitatives, la parole de Dieu est comme un médicament, mais la parole de Dieu est beaucoup mieux qu'un médicament. Parce que non seulement la parole de Dieu peut traiter un problème et peut conduire et amener à la guérison, mais la parole de Dieu agit en nous et nous transmet la nature divine et la vie de Dieu de telle sorte qu'elle anticipe et qu'elle nous immunise de tant de choses que nous n'ayons même pas à être malades ou à avoir besoin d'être guéris, et y compris au niveau de notre cœur. Nous vivons dans un monde et dans des circonstances telles qui fait que les gens ont tout ce qu'il faut. Si on compare, il y a encore quelques dizaines d'années, nous avons largement plus de conditions confortables et de choses qui devraient nous faciliter la vie, mais ce n'est absolument pas pour autant que les gens sont plus heureux. Et il semblerait même que nous soyons moins heureux qu'avant. Quand je dis nous, je parle de la société en général. Et souvent, on entend même des gens qui disent « Mais c'est étrange parce que dans le temps, ils n'avaient pas tout ça ». Et puis, il se compliquait moins la vie. On ne connaissait pas tellement les problèmes de stress, on ne connaissait pas tellement toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on est dans un monde où toutes ces choses-là, les circonstances, les relations qu'on peut avoir, etc., et finalement, les repères qui ont été perdus, eh bien, on crée tant d'occasions d'être blessé, d'être frappé, d'être déformé, entre guillemets, si je peux dire. Et donc, nos cœurs subissent beaucoup de choses. Mais quand nous avons la parole de Dieu et que nous la recevons vraiment et que nous l'accueillons et que nous la pratiquons, eh bien, elle va apporter la santé pour tout notre corps. C'est ce que nous venons de lire. Et encore une fois, le terme est choisi à propos. Ici, ailleurs, l'Écriture dit effectivement que, par exemple, dans le psaume, il envoie sa parole et elle guérit. Donc ça, c'est bien. Il y a une situation, il y a un besoin, la parole vient guérir. Mais ici, dans Proverbe 4:20, il est dit que la parole, ce sera la santé pour ton corps. Et la santé, c'est plus que la guérison. D'accord ? La santé, c'est un état dans lequel, finalement, il y a absence de maladie. La santé, c'est un état d'épanouissement, de développement dans lequel on est. Et la parole de Dieu veut nous apporter la santé pour tout notre corps. Et dans Timothée également, on avait cette perspective. Il est dit, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, c'est une position de stabilité, une position où l'on est ferme et établi. Le psaume 1 et Josué 1:8 aussi nous parle de réussite dans nos entreprises, etc. Et nous parle aussi d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit. Donc quelque chose de beaucoup plus permanent. Et dans cette série encore, on va aborder, comme je disais, plusieurs sujets qui touchent au cœur. Et on va appliquer la parole de Dieu qui convient pour qu'elle puisse faire son effet. Et je sais que ce sera un remède qui va guérir totalement les cœurs brisés. Totalement et parfaitement. Et ça va affermir les cœurs qui ont besoin d'être affermis. Et ça va répandre la vie divine de façon absolue. Mais plus encore que de nous guérir et de nous délivrer et de nous ramener à la vie de Dieu, il va aussi répandre sa puissance et éviter la contamination de ce monde. Il va répandre sa puissance et nous serons gardés et métamorphosés jusqu'à devenir vraiment à la stature parfaite de Christ, ce qui est l'objectif final, que nous soyons vraiment semblables à lui et que nous devenions sans tache ni ride, pour que tout ce qui est immortel, éternel, vienne envelopper les choses mortelles en nous et que tout notre être, comme dit l'Écriture, esprit, âme et corps, soit trouvé irréprochable pour l'avènement du Seigneur. Vous savez, quand j'ai repris ça, ça m'a frappé. C'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Et on utilise souvent ce passage, et je l'utilise notamment quand j'enseigne sur esprit, âme et corps. J'ai bientôt fini. Et je dis tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Mais cette fois-ci, j'ai repris tout le verset. Et j'ai dit, attends, il y a quelque chose. Parce que Dieu dit ici que tout notre être, esprit, âme et corps, doit être trouvé irréprochable ou irrépréhensible, pardon, pour son avènement. C'est pas juste mon esprit donc il a été renouvelé à nouvelle naissance et que je dois maintenir pour son avènement et puis ça va partir. Mon être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Alors la partie corps, on y reviendra peut-être plus tard parce qu'il y a vraiment matière aussi à réflexion et à révélation. Je crois que Dieu veut nous parler et Dieu a commencé à nous parler, il continuera de le faire, mais ici encore on voit que pour son avènement, donc quand Jésus reviendra et que nous partirons avec lui, il est dit que tout notre être, esprit, âme et corps, devrait être trouvé irrépréhensible et irréprochable. Et moi ça m'ouvre des interrogations mais intéressantes et on verra, mais en tout cas l'esprit, l'âme. Et dans cette série, on va traiter notamment de l'âme, on va parler de notre être intérieur, de nos émotions, de notre volonté aussi, de tout ce qu'il y a là en nous, et qui a pu, comme je l'ai dit, subir tant de choses. Et ça va nous amener, et Dieu, à travers sa parole, va restaurer, renouveler des choses dans notre âme, et pour qu'elles deviennent aussi conformes à ce qu'il veut, sans tache ni ride, glorieuses, au même titre que notre esprit l'est, et même notre corps sera entraîné là-dedans. Donc, notre être entier. Mais aujourd'hui, et je vais en terminer comme ça, eh bien, j'ai voulu refaire cette précision et dire le traitement, c'est la parole de Dieu, mais à condition que nous respections les prescriptions, toutes les prescriptions. Oui, nous prenons la parole, mais appliquons, suivons les prescriptions, et alors nous sommes certains, absolument, d'obtenir du résultat. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi, c'est de prendre une résolution et de vraiment nous positionner et de le prendre dans nos cœurs et de le confesser, pourquoi pas, et de me dire je veux prendre la parole de Dieu dans ma vie et l'accepter comme autorité absolue. Et je veux appliquer les prescriptions de la parole de Dieu. Et je veux m'exposer à la vie divine pour être transformé esprit, âme et corps, pour être conforme exactement à ce qu'il veut pour moi. Mais qu'est-ce que vous êtes avec moi sur ce programme ? Amen.